Bonjour la famille. La famille se compose de frères et de sœurs. Et à mes frères et à mes sœurs, je dis soyez bénis. À vous qui êtes ici, à vous qui nous suivez sur Internet, de près comme de loin, soyez bénis. Et puis notre cher frère Yvan, sois béni. L'Église te bénit, nous te bénissons ensemble. Amen. Ce matin, nous sommes venus, entre autres, pour écouter la voix de Dieu. Depuis jeudi dernier, nous avons un sujet qui me semble être inépuisable. C'est le sujet du fruit de l'esprit. Nous avons vu déjà la bonté. J'espère que ça vous a fait du bien. Nous avons vu la fidélité, c'est ça ? L'amour en tous les cas, l'amour, la fidélité et la joie. Et ce matin, nous allons voir un autre fruit de l'esprit. Pour cela, il nous faut ouvrir la parole de Dieu et laisser l'Écriture nous parler, peut-être même nous convaincre. Nous ouvrons l'Écriture dans une des lettres de l'apôtre Paul, l'Épître aux Galates. Nous lisons au chapitre 5 quelques versets. Je commence par le verset 25, puis nous nous retrouverons au verset 16. Mais je commence au verset 25 du chapitre 5 de l'Épître aux Galates. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Verset 16. Je dis donc, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit. Et l'esprit en a de contraire à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Cela fait partie de notre vie passée. Les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, ce que tout chrétien doit avoir, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. Amen. Amen. C'est l'Écriture, c'est la parole de Dieu. Ce matin, nous allons nous arrêter sur un autre fruit de l'esprit, le sixième. Il s'agit de la bénignité. Quel mot ! Quel mot ! La bénignité. Qu'est-ce que ce mot peut bien vouloir dire dans un bon français, dans un bon langage ? Eh bien, tout simplement, il signifie la douceur, qui a une cousine germaine qui s'appelle la bienveillance. La bénignité, c'est la douceur, la bienveillance. On peut décomposer ce mot ainsi, bienveillant. Nous sommes appelés à porter ce fruit, vous comme moi, chacun d'entre nous. Nous sommes appelés, en tant qu'enfants de Dieu, chrétiens, nous sommes appelés à être bienveillants. Qu'est-ce que c'est que la bienveillance ? La bienveillance, c'est veiller au bien. Retenez ceci. La bienveillance, c'est veiller au bien. Je veille au bien autour de moi. Je veille au bien dans ma famille. Je veille au bien dans l'Église. Qu'est-ce que c'est encore que la bienveillance ? La bienveillance, c'est veiller à faire du bien. Je suis appelé à faire du bien. J'ai pour vocation, maintenant que je suis à Jésus-Christ, que j'appartiens à ce cher Sauveur et Seigneur, j'ai pour vocation à faire du bien. Ma vie doit faire du bien. Qu'est-ce que c'est encore que la bienveillance ? La bienveillance, c'est chercher à faire le bien. Ça demande des efforts. Je cherche à faire du bien. Où puis-je faire du bien ? À qui puis-je faire du bien ? Je dirais pour conclure que la bienveillance est une disposition de cœur favorable à faire le bien. Or, l'Écriture, la parole de Dieu, mon Dieu, m'incite ce matin à porter le fruit de l'Esprit, entre autres, la bénignité. Alors, j'ai réfléchi comme tout chrétien réfléchit, et j'ai prié parce que ce sujet-là me taraude depuis quelques jours. J'ai prié et quelques réflexions sont venues sur mon cœur que j'aimerais partager avec vous ce matin. Je ne peux pas vous parler de la bienveillance sans évoquer la bienveillance de Dieu, qui depuis toujours est bienveillant en ce qui nous concerne, et heureusement pour nous. Parce que s'il avait été malveillant, nous aurions passé de sacrés quarts d'heure et nous l'aurions mérité. Mais notre Dieu est bienveillant, la bienveillance de Dieu. Il y a dans l'Écriture bien des hommes qui ont bénéficié de la bienveillance de Dieu. J'en ai choisi un. J'ai choisi David. David qui a joui au cours de sa vie, et je dirais même tout au long de sa vie, qui a joui de la bienveillance de Dieu. Écoutez ce récit que nous trouvons dans le premier livre des Rois, au chapitre 3 et au verset 6. Il est dit. À Gabaon, l'Éternel a paru en songe à Salomon pendant la nuit. Quelle grâce d'avoir une telle visitation. Et Dieu lui dit, Dieu lui parle. Demande ce que tu veux que je te donne. Salomon répondit, tu as traité avec une, une grande bienveillance, ton serviteur David, mon père, et ce parce qu'il marchait en ta présence dans la fidélité et dans la justice, dans la droiture de cœur envers toi. Tu as conservé cette grande bienveillance. Tu lui as conservé cette grande bienveillance au point que tu lui as donné un fils qui est assis sur son trône, comme on le voit aujourd'hui. Il est merveilleux ce témoignage de Salomon. Il est surtout juste, juste en ce qui concerne son père et surtout juste en ce qui concerne Dieu. Tu as traité avec une grande bienveillance ton serviteur David. Et je pense que toute proportion gardée, Dieu nous a traités jusqu'à maintenant avec une grande bienveillance. Il a été bienveillant, il est bienveillant, il ne cesse d'être bienveillant. Tu lui as conservé cette grande bienveillance. Dieu nous conserve cette grande bienveillance. Il est bienveillant, bienveillant pour son peuple, bienveillant pour ceux et celles qui le composent, bienveillant pour chacun d'entre nous. Nous en sommes témoins. Nous en sommes témoins. Nous sommes témoins de la bienveillance du Seigneur. Et je veux pour preuve un des écrits inspirés aussi de l'apôtre Paul, qui écrit aux chrétiens d'Éphèse, au chapitre 1er et au verset 7, il dit « En lui, Jésus, nous avons la rédemption par son sang, par son sacrifice. Nous sommes rachetés comme nous l'avons chanté ce matin. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, de tous nos péchés. Amen. Selon la richesse de sa grâce que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même. » Dieu témoigne de son bienveillant dessein du salut. La bienveillance de Dieu avait en vue notre salut. Un jour, nous avons été rencontrés par Jésus. Un jour, Jésus s'est approché de nous. Il a toqué à la porte de notre cœur. Nous lui avons ouvert, nous l'avons reçu. Il est devenu notre sauveur. Nous sommes sauvés. Je ne sais pas si vous réalisez le cadeau que Dieu nous a fait en pardonnant nos péchés. Parce que nous étions des coupables. Nous méritions la prison divine. Nous étions des coupables. Et Dieu nous a fait un merveilleux cadeau. Le jour où nous avons rencontré Jésus, où Jésus a eu raison de nous, où nous l'avons accepté, où il a pardonné nos péchés et où il nous a accordé la vie éternelle. J'ai la vie éternelle, et vous ? Il y a quelques-uns qui l'ont ici. Amen. Avez-vous la vie éternelle ? Amen. Gloire à Dieu. Dieu ne nous veut que du bien. Vous entendez bien ? Dieu ne nous veut pas du mal. Il ne veut de mal à personne. Dieu ne nous veut que du bien. Alors je réfléchis à la bienveillance de Jésus. À la bienveillance de Jésus qui s'exerce pour tous les hommes. Pour tous les hommes. Quelles que soient leurs conditions. La bienveillance de Jésus qui s'exerce envers les pécheurs, les plus notoires. La bienveillance de Jésus qui s'exerce envers les malades, se penche sur leur cas pour les guérir, les rétablir, la bienveillance de Jésus qui s'exerce, voire vis-à-vis des adversaires de l'Évangile, des adversaires de l'Église. Oui, il faut connaître Jésus. Il faut le connaître autrement que par son nom. Il faut le connaître par une rencontre, certes, mais il faut le connaître par une intimité avec lui, par une proximité avec lui, par une communion avec lui. Et quand on entre dans cette intimité de Jésus, on fait une découverte. Vous connaissez ce passage extraordinaire que je relisais ce matin dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 11 et au verset 28, Jésus dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos, le repos dont vous avez besoin, le repos que vous sollicitez, je vous l'accorderai. Prenez mon joug sur vous, dit-il, et recevez mes directives, recevez mes instructions. » Et il ajoute, ça c'est beau. Ça c'est beau quand on le réalise. Car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. Connais-tu le cœur de Dieu? Connais-tu le cœur de Jésus? Je suis doux, dit-il. Je suis doux et humble de cœur. Mon joug est doux, mon fardeau léger. Oui, Dieu a des sentiments. Il a les sentiments d'un vrai père vis-à-vis de sa famille. D'un vrai père qui prend soin de sa famille. D'un père qui prend soin de ses enfants, qui chérit ses enfants, qui élève ses enfants, les nourrit, les vêtit, leur donne l'instruction. Il a ce sentiment d'un père, comme il a aussi les sentiments d'un berger sur la montagne, qui prend soin de son troupeau, qui prend soin de ses brebis, de chacune de ses brebis. Dieu est bienveillant. Dieu est bienveillant pour nous. Et l'Esprit nous le rappelle ce matin. Et dans notre communion avec le Seigneur, dans notre intimité avec le Seigneur, nous sentons la douceur de son cœur. Nous sentons la douceur de son approche, nous sentons la douceur avec laquelle il nous bénit. Dieu est bienveillant. L'Écriture nous demande, nous aussi, d'être bienveillants. Je veux pour preuve ce fruit de l'Esprit qui est mentionné ici pour les chrétiens de la Galatie, mais pour les chrétiens de toutes les nations et de tous les temps. Le fruit de l'Esprit, c'est la bénignité, la bienveillance. Suis-je comme mon maître? Suis-je comme le Seigneur? Suis-je bienveillant? Alors je voudrais ce matin évoquer la bienveillance chez le chrétien. La bienveillance, disons, chez chacun d'entre nous. Le chrétien ne veut que du bien aux autres, et il prie pour cela. Le chrétien, je répète, ne veut du bien qu'aux autres. Et ce bien, il le recherche pour eux. Ce bien, il le souhaite pour eux. Il le demande à Dieu pour eux. Vous savez, la bienveillance, c'est une disposition de cœur. une disposition de cœur proche de l'amour. C'est important d'avoir cette disposition de cœur, parce que on n'a pas toujours cette disposition de cœur. Dans l'Écriture, il est même fait mention de personnes qui prêchent l'Évangile avec de mauvaises dispositions. Vous en connaissez peut-être encore de ces gens qui prêchent l'Évangile pour eux-mêmes, pour leur propre satisfaction, pour leur propre gloire, quelquefois pour leur propre porte-monnaie. Si vous en connaissez, méfiez-vous, hein. Méfiez-vous. Ce ne sont pas des bons bergers. Et du temps de l'apôtre Paul, il y avait de tels pasteurs. Non, si. Relisez dans l'Épître aux Philippiens et vous verrez. Au chapitre 1er de cet épître, l'apôtre Paul dit à partir du verset 15, « Quelques-uns, il est vrai, prêchent Christ par envie. » Ils ont envie. « Par esprit aussi de dispute. » En général, ce sont ceux qui font des divisions. Mais, dit-il, d'autres prêchent avec des dispositions bienveillantes. Ceux-ci agissent par amour, sachant que je suis établi pour la défense de l'Évangile. Oui, la bienveillance est la disposition de cœur la plus proche de l'amour. Il est important d'être bienveillant en tant que chrétien, en tant qu'ancien, en tant que prédicateur. Il est important d'être bienveillant. Être bienveillant pour le salut des âmes, pour gagner des âmes. Parce que les âmes, on ne se les attire pas à soi, les âmes, on les attire au Seigneur. On ne travaille pas pour soi, on travaille pour le royaume de Dieu. Une âme, c'est tellement fragile. C'est tellement délicat, une âme. On peut froisser une âme. On peut blesser une âme. On peut tuer une âme. Oh, que jamais cela ne nous arrive. Seigneur, donne-nous de nous conduire toujours avec ce fruit de l'esprit qu'est la bienveillance. Vous connaissez le roi Roboam, oui, c'est difficile à prononcer. Un jour, cet homme, qui était un homme remarquable, un homme de Dieu, a eu cette bonne réflexion. Il s'est dit, j'ai un problème, il faut que je consulte les anciens. Ça, c'est biblique. Alors, il a consulté les anciens de l'époque, les vieillards, disons. Vous trouvez cette scène que je suis en train de vous raconter dans le premier livre des Rois, au chapitre 12 et au verset 7. Et voici ce qu'ils lui dirent, les anciens, les vieillards, à l'homme de Dieu. Si aujourd'hui tu rends service à ce peuple, si tu leur accordes ce dont ils ont besoin, et si tu leur réponds par des paroles bienveillantes, ils seront toujours tes serviteurs. Amen. Là, il y a une trame, il y a une direction particulière. Si tu leur réponds par des paroles bienveillantes, alors tu les gagneras, ils seront toujours tes serviteurs. Voilà ce que produit la bienveillance. Voilà ce que produit la bienveillance. Hélas, il arrive que la bienveillance soit absente. Alors l'absence de la bienveillance est due à quoi, au fait, quand on n'est pas bienveillant? Oh ben, je vais vous le dire, parce que je suis de la même nature que vous, et puis je n'ai pas toujours été, disons, ce que je suis, donc j'ai fait des expériences. L'absence de la bienveillance est due au péché de caractère. on a du caractère, un caractère de fer. Je dirais que, pour peut-être traduire ça plus intimement, on a du tempérament. On ne sait pas faire, hein, on a du tempérament. Et parce que on a du caractère et du tempérament, on devient insensible, strict, inflexible, sévère. Parce que l'on a du caractère et du tempérament, on n'a plus de cœur. Les sentiments, ça n'existe plus. Le cœur a disparu. Alors, bien sûr, il faut vaincre ces états de cœur. Et si quelqu'un avait un tel état de cœur ce matin, il faut demander l'aide de Dieu, le renouvellement de l'Esprit de Dieu pour avoir un tout autre caractère. Il nous faut tout à nouveau le contrôle du Saint-Esprit. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi par l'Esprit, comportons-nous en Esprit. Et peut-être que ce matin, on a besoin soit d'être baptisé, soit d'être renouvelé dans le Saint-Esprit. On a besoin tout à nouveau que le ciel nous vienne en aide et prenne possession de nos vies. Alors si le Seigneur prend possession de nos vies, nous allons apprendre certaines choses qu'il est difficile à la nature humaine de faire, mais avec l'Esprit de Dieu, c'est possible. Nous allons apprendre à renoncer à nous. Savoir renoncer à soi pour les autres. Vous savez que l'amitié, oh c'est beau l'amitié, c'est beau l'amitié. L'amitié attire la sympathie. Si vous témoignez de l'amitié à quelqu'un, vous attirerez systématiquement son amitié, sa sympathie. C'est quand même mieux qu'une porte de prison, hein. Qu'est-ce que tu es, au fait? Un chrétien bienveillant, qui témoigne de la sympathie, de l'amitié, ou es-tu une porte de prison? Ah, moi, j'ai pas envie d'aller vers les portes de prison, et vous? Ah non, on les fuit, les portes de prison. Tu fais le vide autour de toi, pourquoi? Ben, réfléchis. Tu vis pour toi, comme un égoïste. Non. Nous sommes appelés à porter le fruit de l'esprit. Je suis appelé, et le ciel m'appelle ce matin, à porter le fruit de l'esprit, la bienveillance. La bienveillance attire l'amitié, la sympathie. Et quand on attire l'amitié, la sympathie, on attire les âmes. On est un gagneur d'âmes. Dans le livre des Proverbes, oh, vous savez, la Bible est sage, elle répond à tout. Dans le livre des Proverbes, au chapitre 14 et au verset 9, nous lisons « Parmi les hommes droits, se trouve la bienveillance. » Vous pouvez cocher ça. Si vous avez un stylo ou un stabilo, soulignez ça. 14:9. Parmi les hommes droits se trouve la bienveillance. L'homme bienveillant est béni dans le sens que les autres sont amenés à le bénir pour le bien qu'il leur fait. Alléluia. Dans le livre des Proverbes, toujours, au chapitre 22 et au verset 8, je lis ceci. L'homme dont le regard est bienveillant sera béni parce qu'il donne de son pain aux autres. L'homme dont le regard est bienveillant sera béni parce qu'il partage avec celui qui a faim, dont l'estomac est vide. Il donne de son pain. Est-ce que je peux continuer avec la bienveillance? Vous êtes saturé ou quoi? Non? On peut aller un petit peu plus loin? Vous savez, moi, j'aime l'Écriture. J'aime la parole de Dieu. Je pense vous l'avoir dit, je suis amoureux de la parole de Dieu. J'aime ma femme, ça certes, j'aime ma famille, mais si vous saviez comme j'aime la parole de Dieu. Je la lis, je la médite, et non pas une fois de temps en temps, une fois, non, tous les jours. Parce que là, je trouve mon plaisir. Alors je continue, avec la bénignité, la bienveillance. La bienveillance du Seigneur, qui est bienveillant envers tous les hommes. Et ça, on est d'accord. Il est bienveillant envers tous les hommes. Même les pires, fussent-ils des criminels, Dieu est bienveillant à leur encontre. Alors, je voudrais dire ce matin quelques mots, parce qu'il est possible qu'on ait quelques difficultés de relations dans nos familles ou ailleurs. Je voudrais dire quelques mots ce matin sur la bienveillance envers nos ennemis. Vous savez que la bienveillance désarme et désarmera toujours l'adversaire. Ah bon ? Oui. La bienveillance désarmera toujours l'adversaire. Alors, Jésus, je t'écoute. Je lis dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 6 et au verset 31e. Écoutez bien. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quel gré vous en saura-t-on ? Les pécheurs aussi aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, quel gré vous en saura-t-on ? Les pécheurs aussi agissent de même. Et si vous prêtez à ceux de qui vous espérez recevoir, quel gré vous en saura-t-on ? Que faites-vous d'extraordinaire ? Les pécheurs aussi prêtent aux pécheurs afin de recevoir la pareille. Et puis Jésus va conclure, ou il va faire plutôt un résumé. Et il dit ceci : aimez vos ennemis. Faites du bien, prêtez sans rien espérer, votre récompense sera grande et vous serez fils du Très-Haut, car il est bon, il est bienveillant pour les ingrats et pour les méchants. Ce que tu n'es peut-être pas, lui, il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Soyez donc miséricordieux comme votre Père céleste est miséricordieux. Amen. Amen. Seigneur, donne-moi de me comporter comme un de tes disciples. Donne-moi de me comporter comme un vrai chrétien. Seigneur, même si cette parole me semble encore difficile à comprendre et surtout à mettre en pratique, donne-moi de l'écouter ce matin. Aime tes ennemis, fais du bien, prête sans rien espérer, et ta récompense sera grande. Tu seras fils du Très-Haut, fils de Dieu, car il est bon pour les ingrats et les méchants. Sois donc miséricordieux comme ton Père est miséricordieux. Oui, la bienveillance désarme l'adversaire. La bienveillance inspire de la douceur avec les adversaires. Est-ce en vain que l'Écriture parle ? Est-ce en vain que Dieu parle ? Est-ce en vain que nous avons sous nos yeux la parole inspirée ? Paul, lui, écrit à Timothée dans sa seconde lettre, au chapitre 2 et au verset 25, il parle de responsable et il dit, il doit redresser avec douceur les adversaires. Et toi, tu entends les redresser comment ? Avec une verge ? Il doit redresser avec douceur les adversaires dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. Béni soit le nom du Seigneur. La bienveillance doit s'exercer et je dois exercer la bienveillance. Je dois avoir ce fruit de l'esprit. Je dois le mettre en évidence. Le monde en a besoin. Mes bien-aimés en ont besoin. La bienveillance s'exerce envers tous. L'apôtre Paul rappellera encore, et cette fois à Tite, au chapitre 3 de l'Épître et au verset 1er, rappelle-leur. Voilà, on a besoin de rappel, d'une piqûre de rappel. Rappelle-leur d'être soumis aux magistrats, ah oui, et aux autorités, d'obéir, d'être prêt à toute bonne œuvre. D'être prêt à toute bonne œuvre, de ne médire de personne, ne médis personne, ne dis du mal de personne. Dire du mal de quelqu'un, c'est te salir toi-même. Ne dis jamais de mal, ne dis jamais plus de mal de quiconque. De ne médire de personne, d'être pacifique, eh oui, modéré, plein de douceur. Envers tous les hommes. Eh oui, tu voudrais peut-être déchirer ça, mais ça, c'est écrit, hein. Eh oui, c'est écrit. Plein de douceur envers tous les hommes. Seigneur, faut qu'on arrête, hein. Faut qu'on arrête. Je crois que ce matin, l'estomac spirituel est plein. Hein. Il va falloir maintenant digérer cela. En tous les cas, moi, je veux me souvenir et il serait bon que nous nous souvenions, frères et sœurs, que le fruit de l'esprit, c'est l'amour qu'on a vu, la joie, c'est aussi la paix, la patience, c'est la bonté, c'est la bénignité, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la tempérance. Je dois porter ce fruit. Je me réclame de ce fruit. Je demande au Seigneur. Et nous demandons au Seigneur ce matin, dans ce rassemblement, dans ce culte, nous demandons au Seigneur la grâce de porter ce fruit. Et notre prière peut se faire en quelques mots. Notre prière peut être celle-ci. Seigneur, change mon cœur. Je me repens, Seigneur. Je n'ai pas été à la hauteur de la vocation que tu m'as adressée. Je suis loin de te ressembler. Seigneur, j'ai besoin que tu me fasses grâce. Change mon cœur. Je suis humilié devant ta parole. Je suis humilié devant ton esprit. De grâce, Seigneur. Pour les miens, pour ceux que je côtoie, pour ceux avec lesquels je vis. Seigneur, change mon cœur. Donne-moi un tout autre cœur. Ce cœur de pierre, Seigneur, change-le en cœur de chair. Ce cœur égoïste, Seigneur, change-le dans un cœur qui te ressemble. Une dernière parole de Dieu, une parole inspirée, une parole qui nous va droit au cœur. C'est cette parole de Paul aux Philippiens qui écrit au chapitre 2 et au verset 5 de son épître « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ ». Vous dites amen ? Non, pas un amen asthmatique, hein. Vous dites amen.
Amen.
Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Amen. Exauce-nous, Seigneur. Et fais que, à partir de maintenant, nous puissions porter un bon fruit, et notamment le fruit de la bienveillance. Que Dieu vous bénisse, chers frères et sœurs. Que Dieu nous bénisse. Amen. Seigneur, nous te louons. Nous te bénissons, nous te rendons grâce parce que tu es manifestement au milieu de nous. Seigneur, tu nous parles avec douceur. Seigneur, tu nous dis des vérités avec douceur. Tu n'es pas celui qui nous brusque ce matin, mais tu nous parles avec douceur, comme tu nous convaincs avec douceur. Seigneur, nous nous laissons reprendre par toi et nous te demandons, Seigneur, à la fin de ce culte, de changer notre cœur, de nous donner un cœur qui soit selon le tien. Seigneur, viens nous bénir ce matin, viens nous bénir par le Saint-Esprit ce matin, viens nous remplir du Saint-Esprit et donne-nous de porter, Seigneur, le fruit de l'Esprit, entre autres celui de la bénignité, celui de la bienveillance, de la douceur. Que ta bénédiction repose sur ton peuple tout entier, sur ceux qui sont ici comme ceux qui écoutent, Seigneur, sur YouTube. Que ta bénédiction soit sur chacun de nous. Au nom de Jésus, celui qui nous entend et nous exauce. Amen. Amen. Merci Seigneur. Amen.